Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à Paul de m'avoir invité. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous en ce matin, hein, de découvrir. Alors, je connaissais déjà la salle, puisque je suis déjà venu, je crois, deux fois. Une fois pour une pastorale, et puis une autre fois pour un mariage. Et c'est la première fois que je vous rencontre, donc je suis très content d'être avec vous ici présent en ce matin. Et puis, c'est aussi un privilège pour moi aussi, hein, de vous partager la parole de Dieu. Je remercie aussi l'équipe de Louange. Hein. Je pense qu'on a été richement bénis, que ce soit à travers les chants, les lectures ou encore les prières qui sont montées vers notre Seigneur. Et voilà, j'ai été richement béni à travers ce premier temps. Donc, merci à cette équipe de Louange. Et puis, ce sera également aussi une joie pour moi d'échanger avec vous à la fin du culte, voilà, plus en profondeur. Si vous voulez discuter avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Alors, bien entendu, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse également et puis mes deux filles. Donc, ce sera aussi l'occasion de la rencontrer aussi à la fin du culte, hein, d'échanger aussi avec elle. Donc, on a deux petits-enfants, une de 2 ans, bientôt 2 ans, dans un mois et demi à peu près, et puis une autre de 2 mois. Donc, voilà, vous imaginez bien que c'est plutôt sportif à la maison. Et c'est aussi une joie. Alors, le jeûne selon le cœur de Dieu, c'est la prédication que je vous propose. Voilà, c'est cette réflexion que je voulais vous proposer ce matin, puisque c'est vrai que nous expérimentons tous, je pense, dans manière générale, un sentiment de déception, un sentiment qui nous fait dire qu'il nous manque quelque chose dans cette vie présente. Le désir d'avoir peut-être plus de contrôle sur nos vies, pour avoir aussi une meilleure visibilité quant aux choses futures, et aussi de nous prémunir, pardon, du caractère incertain du lendemain. Et nous avons l'impression que la vie ordinaire ne suffit pas, elle ne répond pas suffisamment à nos besoins, les besoins les plus profonds que nous avons. Nous aspirons donc à plus, à un monde équilibré, plus équilibré, un monde meilleur, une transformation de notre monde, mais aussi même à une transformation aussi intérieure de nous-mêmes, afin d'atteindre une certaine perfection. Et lorsque je dis cela, je ne m'adresse pas seulement aux personnes qui sont croyantes, mais je pense que c'est un sentiment qui peut être partagé par tous, un caractère insuffisant qu'on retrouve dans ce monde. Alors, pour répondre à ce problème existentiel, plusieurs solutions ont été proposées, et l'une d'entre elles est une pratique que nous retrouvons dans la plupart des cultures, dans des religions ou dans les philosophies, sous une forme différente, variée, c'est le jeûne, justement. Le jeûne, nous le retrouvons, cette pratique, autant dans les grandes religions monothéistes, mais aussi dans les religions, disons, plus orientales, mais également dans les domaines non religieux, comme le profane, dans la santé, dans le développement personnel, et même dans la protestation politique, hein, puisqu'il y a la grève de la faim. Donc c'est une pratique qu'on retrouve dans différents milieux, ce n'est pas une pratique uniquement, disons, religieuse ou spirituelle. Et il est intéressant de constater que cette pratique, qui remonte à la nuit des temps, a souvent été perçue soit comme un moyen de se rapprocher de la divinité, d'une réalité supérieure, plus grande, ou alors comme un moyen de devenir meilleur par la discipline de son propre corps. Et il est vrai que même si le jeûne est une pratique que nous retrouvons dans les Écritures, nous voyons aussi beaucoup de passages qui nous mettent souvent en garde contre une pratique coupable du jeûne. Par exemple, dans Zacharie 7, verset 5, les questions de jeûne non pas centrées sur Dieu, mais centrées sur soi. Dans Matthieu 6 aussi, versets 16 à 18, un jeûne pour impressionner, pour être admiré des autres. Là, c'est Jésus qui parle et qui donne cet avertissement. Dans Colossiens 2, versets 20 à 23, il est question de ceux qui se présentent très spirituels, très ascètes, quelque part, très dans la maîtrise du corps. Et c'est un jeûne ascétique qui semble sage, qui semble empreint de piété, nous dit Paul, mais elles sont centrées sur des aspirations toutes humaines, en fait. Donc, nous voyons ces différents avertissements. Et c'est vrai que le jeûne peut être utilisé comme une pratique centrée sur soi, afin d'exercer un certain contrôle. Alors, premièrement, ça peut être un contrôle extérieur, en faisant, par exemple, plier la volonté de Dieu à la nôtre. Nous recherchons à accomplir nos projets, ce que nous voulons, et accomplir ce que nous voulons et non ce que Dieu veut pour nous, pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, je souhaite ardemment quelque chose. Donc de ce fait, je vais jeûner par rapport à cela. Et comme ça, très certainement, Dieu va répondre à ma prière. Et puis de ce fait, je serai content et ça va apporter un certain équilibre dans ma vie. Et donc du coup, un jeûne qui est utilisé pour exercer un contrôle, une force sur les choses extérieures. Et puis ça peut être aussi une pratique qui exerce un contrôle intérieur faire plier notre corps à notre volonté, comme je disais précédemment, dans une démarche de développement personnel, c'est quelque chose qu'on peut entendre bien souvent, ou de bonne conscience religieuse. Voilà, je suis capable de contrôler mes pulsions par le jeûne, je suis un bon chrétien. Et c'est vrai que le jeûne est une pratique qui est plutôt bien reçue en général. Hein. Lorsque quelqu'un vous dit, par exemple, que je jeûne régulièrement, ben, on peut avoir une bonne opinion de cette personne parce que simplement elle jeûne régulièrement. Ça paraît la pratique qui montre une certaine dévotion, une certaine consécration. Et donc, de ce fait, ben, on peut jeûner aussi, non pas pour... tout simplement pour se donner une bonne image de soi-même, être fier de soi-même. Je suis un bon chrétien parce que je jeûne régulièrement. Ça nous fait penser peut-être à la prière du pharisien, hein, dans la parabole de Jésus, hein, qui louait Dieu, il était satisfait de lui-même parce qu'il jeûnait aussi régulièrement. Alors, vous l'aurez compris, le jeûne, selon le cœur de Dieu, ne devrait pas, en tout cas, refléter ce genre de motivation, mais quelque chose de différent. Et c'est vrai que si la pratique du jeûne peut sembler être une démarche d'humilité et de piété, Dieu ne se contente pas seulement de l'apparence, mais regarde aussi aux intentions, regarde également au cœur. Et c'est ce qui compte avant tout pour lui. Ce qui veut dire qu'entre deux personnes qui jeûnent et qui expriment la même demande, l'une peut être reçue par Dieu, approuvée par Dieu, tandis que l'autre non. Alors que c'est dans les mêmes circonstances, les mêmes demandes, mais Dieu regarde surtout au cœur et ne regarde pas forcément aux apparences, un peu peut-être comme nous. Et justement, ben, pour pouvoir avoir une bonne appréciation de ce qu'est le jeûne selon le cœur de Dieu, ben, je vous invite à voir à quoi cela ressemble justement à travers l'expérience d'Esdras. Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Et je vous invite à suivre la lecture avec moi. Alors, il nous est dit dans la version Semeur, « Là, au bord du fleuve Ahava, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. » Voilà, ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, quelques éléments de contexte afin de mieux apprécier ce passage. Hein, cet extrait, voilà, vous le voyez, c'est là où se trouve dans le livre d'Esdras. Et il nous relate le voyage d'Esdras en direction de Jérusalem. Cet Esdras est un spécialiste de la loi qui a été mandaté par l'empereur perse, donc il vit en exil hein, dans l'empire perse. Il a été mandaté par l'empereur pour restaurer le culte rendu à Yahvé, donc à Jérusalem. Et il nous faut savoir que cette histoire se passe justement après la chute de Jérusalem, la destruction du temple, qui était le symbole de la présence de Yahvé pour son peuple. Et cela s'est fait suite à une succession de désobéissances et de rébellions du peuple vis-à-vis de Dieu. Et Dieu a décidé simplement d'appliquer ce qu'il avait déjà prévu dans la loi de Moïse. On trouve souvent cela aussi dans le Deutéronome, à savoir la destruction du pays et la déportation du peuple dans un pays étranger si le peuple se montre rebelle vis-à-vis de lui. Donc c'est quelque chose qui était prévu des siècles à l'avance. Et il s'avère que le peuple s'est montré rebelle, le peuple a été exilé, donc se retrouve dans les provinces babyloniennes, ensuite perses, puisque c'est les Perses qui ont pris la succession. Et la situation est restée comme cela environ 70 ans. Et c'était 70 années où les Israélites se demandaient si Dieu les avait définitivement justement abandonnés à cause de leur désobéissance. 70 années de regrets aussi, d'incertitude pour un peuple qui avait tout. Il avait un pays prospère, parce que la Bible nous dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, un Dieu fidèle qui apportait la joie, qui apportait la paix, qui apportait la sécurité, qui apportait leurs fruits en leur saison. Et finalement, ce peuple qui avait tout cela se retrouve sans terre, sans Dieu, dans une situation où il est minoritaire avec un avenir certain au milieu de cet empire. Cela dit, Dieu avait déjà prévu aussi de ne pas abandonner son peuple, et de ce fait, il avait aussi décidé de le rétablir. Et après ces 70 années d'exil, Dieu va placer à la tête de l'empire perse, un roi avec une politique favorable aux Juifs. Il va leur permettre de revenir dans leur pays, de reconstruire la ville de Jérusalem, de reconstruire le temple aussi, garant de la faveur et de la présence de Dieu. Alors une première génération va se rendre au pays pour reconstruire le temple. Et puis Esdras, lui, fait partie d'une seconde génération qui retourne aussi à Jérusalem, avec cette fois-ci pour mission d'enseigner la loi, de réformer les pratiques religieuses et de rétablir la fidélité à l'alliance au sein du peuple, afin de ce peuple qui a été dispersé. Alors Esdras va faire un long voyage. Il va faire un très long voyage de plus de 1600 km avec femmes, enfants, vieillards et puis trésors précieux destinés au temple. Et c'est donc une caravane fragile, une caravane lente et très exposée qui fera la joie et la prospérité des premiers bandits qui vont croiser sa route. De ce fait, Esdras demande à Dieu sa protection. De prime abord, on constate que le jeûne exprime donc un besoin. C'est une façon de pratiquer le jeûne qui s'inscrit dans ce que nous avons vu aussi précédemment, le jeûne comme moyen de surmonter les difficultés. En effet, dans ce monde touché par le péché, l'échec et le danger, le recours au jeûne semble être un moyen pour réussir dans ces entreprises. Ainsi, on peut décider de jeûner parce qu'on souhaite réussir à un examen ou alors avoir une guérison suite à une maladie même parfois incurable, ou encore surmonter une situation périlleuse, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille ou même au sein du couple. À l'exemple d'Esdras et bien d'autres personnages bibliques, nous pouvons décider de jeûner et de prier afin d'obtenir justement le secours de Dieu. Mais je pense seulement que si nous comprenons le jeûne de cette manière, je crois que nous passons à côté de son véritable objectif. Alors, voyez Esdras. Esdras, son objectif ne se limite pas seulement à faire un bon voyage en toute sécurité. Non, voyager en toute sécurité n'est qu'une étape afin d'atteindre son véritable but. Et quel est son véritable but ? C'est de réformer le culte rendu à Dieu, afin que le peuple puisse bénéficier de la présence glorieuse de Yahvé. Le jeûne d'Esdras n'exprime donc pas le désir de bien voyager, mais avant tout le désir d'être lui et le peuple en communion avec Dieu. Toutefois, un obstacle se dresse quant à ce projet, c'est le caractère dangereux de ce voyage. De ce fait, il demande à Dieu son secours, afin que rien ne puisse l'empêcher de jouir justement de cette communion avec Dieu. Il ne cherche pas à être en sécurité, il cherche d'abord cette communion avec Dieu, et l'obstacle, c'est le danger de ce voyage. Et je crois que Esdras est un bel exemple qui nous invite à nous poser les bonnes questions lorsque nous décidons de jeûner. Souhaitons-nous jeûner pour que Dieu nous aide à réaliser nos objectifs, ou alors pour briser tout ce qui nous empêche de nous réjouir de la communion que nous avons avec lui? Lorsque nous jeûnons, cherchons-nous justement la main de Dieu, ce qu'il peut nous donner, ou alors ce qu'on recherche plutôt sa face, la plénitude de sa présence dans notre vie? On peut donc légitimement se demander dans quelle mesure ce que je demande à Dieu à travers le jeûne m'aidera à mieux le connaître, à plus me rapprocher de lui. Dans quelle mesure l'intervention de Dieu dans ma vie, dans ma situation difficile, m'aidera à m'approcher de lui? Esdras savait que échouer dans son voyage revenait à échouer dans la mission qui était à savoir de rétablir la communion entre Dieu et le peuple. De ce fait, il jeûne. L'objectif du jeûne est d'exprimer finalement notre faim et notre soif pour Dieu. C'est pour cela que pour Jésus, il ne faisait aucun sens pour que ses disciples jeûnent alors qu'il était sur terre avec eux. Et ça nous rappelle dans les évangiles, les pharisiens, les disciples de Jean qui viennent voir Jésus, demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus dit simplement que voilà, le marié est parmi eux, il n'y a pas de raison de jeûner. Et lorsque le marié leur sera enlevé, à ce moment-là, ils vont se mettre à jeûner. Et justement, les disciples de Jean et les pharisiens n'ont pas compris que Yahvé était présent parmi son peuple et il n'y avait aucune raison de jeûner alors que Yahvé est là, quelque part. Le jeûne exprime justement notre désir d'être dans cette communion avec Yahvé. Nous nous privons donc de nourriture en exprimant notre désir d'une meilleure nourriture, une nourriture céleste. À l'exemple de Jésus aussi qui disait à ses disciples qu'il avait une nourriture spéciale, qui était de faire la volonté de Dieu, qui était d'être dans cette communion également avec Dieu. Ainsi, par le jeûne, nous demandons à Dieu de détruire tout obstacle qui nous éloigne de lui, qui nous empêche de nous satisfaire de lui et de lui seul. Alors pour Esdras, c'était un voyage périlleux. Ça peut être aussi une maladie qui nous empêche, par exemple, de participer au culte, de vivre cette communion spéciale lorsque nous sommes au culte. Bien entendu, nous avons tout le temps la présence de Dieu parmi nous, mais je crois qu'il y a une dimension spéciale lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer, pour être à l'écoute de sa parole, pour se laisser aussi interpeller par Dieu. Il y a quelque chose de spécial. Et c'est disons que c'est un manquement, le fait de ne pas pouvoir participer au culte, donc peut-être voilà, une maladie qui nous empêche, une situation difficile au travail ou alors dans la famille qui nous empêche de nous engager dans le projet que Dieu a pour nous, ou dans le service par exemple, une addiction qui nous éloigne de Dieu. Alors bien entendu, la liste que je vous propose n'est pas exhaustive, hein, mais c'est à nous de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui dans notre vie nous éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier pleinement de sa présence? Le jeûne, dans ce cas, peut être pertinent pour exprimer à Dieu notre désir qu'il intervienne dans notre vie afin de briser tous ces obstacles qui nous empêchent de pleinement vivre cette communion avec lui. Donc le jeûne est donc un moyen de surmonter une difficulté, non pas pour notre confort personnel ou pour atteindre nos propres objectifs, mais surmonter toute difficulté qui nous éloignerait de Dieu. Alors, en lisant attentivement le passage, nous constatons une chose qui est assez intéressante. En fait, on constate que Esdras n'avait pas besoin de jeûner. Il aurait pu avoir recours à la protection de l'empereur, mais il a refusé de le faire. Alors, je dis que c'est assez intéressant parce que quelques années après, quand vous lisez dans le livre de Néhémie, on voit que Néhémie, qui semble à peu près dans les mêmes circonstances qu'Esdras, semble n'avoir aucun souci à se tourner vers l'empereur pour justement avoir sa protection. Puisque dans Néhémie chapitre 2, verset 9, il nous est dit « Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate. Je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. » Donc Néhémie, qui fait aussi le voyage retour à Jérusalem, lui ne voit pas la nécessité de jeûner. Et on peut se demander pourquoi Esdras n'a-t-il pas fait de même? Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir recours justement à l'empereur? Et nous avons la réponse dans notre texte. Esdras était soucieux de la gloire et de l'honneur de Dieu auprès de l'empereur. Alors, je reviens un peu en arrière, puisque voilà, j'ai eu honte de demander à l'empereur de nous protéger, alors que j'avais dit à l'empereur que Dieu prend plaisir à protéger ceux qui lui font confiance. Pour lui, faire appel à l'empereur serait, pour Esdras en tout cas, serait un manque criant de sa foi en Dieu, alors que pour Néhémie, Néhémie, lui, n'a vu aucun problème à faire autrement. Et c'est assez intéressant, peut-être, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais c'est assez intéressant de se poser la question, de se demander, mais pourquoi deux façons de faire différentes? Qui a raison dans tout cela? Et je crois que de prime abord, si nous nous contentons de suivre l'exemple d'Esdras, sans chercher à approfondir notre compréhension du texte, nous pouvons nous retrouver à agir d'une manière qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, disons même de la volonté de Dieu, disons même par excès de zèle. Hein. Nous pouvons par exemple refuser de prendre un traitement pour démontrer au médecin que notre Dieu protège avec bonté ceux qui lui font confiance. Nous pouvons dans la même veine aussi refuser toute aide humaine, car nous, encore une fois, nous voulons démontrer que c'est Dieu qui nous protège et non les hommes. Et c'est vrai que Satan lui-même a tenté Jésus dans cette voie en l'invitant à sauter dans le vide afin de mettre sa confiance dans la promesse qui dit que Dieu viendra à son secours. Et donc on voit ça dans Matthieu 4, versets 6 et 7, où justement Jésus, à travers cela, a vu une manière de forcer la main de Dieu, alors qu'il suffisait simplement de ne pas se mettre inutilement en danger. Le diable lui dit de se mettre inutilement en danger en sautant par-dessus, en sautant dans le vide, alors qu'il n'a simplement il n'a qu'à ne pas se mettre en danger. Et nous avons aussi l'exemple de d'autres personnages. Je pense aussi au roi Josias, qui était présenté comme un bon roi, qui était un roi fidèle à l'Éternel. Et par excès de zèle, il a décidé de s'interposer au roi d'Égypte, le roi d'Égypte qui remontait pour faire la guerre avec les Babyloniens. Et il mourra inutilement alors que Dieu ne lui avait pas demandé cela, même de manière prématurée. Par excès de zèle, voilà, il va s'interposer vis-à-vis de ce roi d'Égypte alors que Dieu ne lui avait pas demandé cela. On ne sait pas trop pourquoi il l'a fait. Et finalement, il meurt prématurément. Il y a aussi d'autres passages, comme celui-ci par contre, qui montrent des croyants qui s'exposent volontairement au danger afin de manifester leur confiance en Dieu, comme celui d'Esdras. Donc on voit des croyants qui décident de le faire, se mettre en danger. Et la question est la suivante, comment faire la part des choses? Comment savoir si on peut se mettre en danger ou pas dans ces situations? Comment savoir si notre jeûne est un excès de zèle pour forcer la main de Dieu ou alors une manière de lui manifester notre confiance? Alors, si nous étudions un peu plus le cas d'Esdras, nous apprenons qu'il était un spécialiste de la loi et qu'il avait une connaissance approfondie de la loi de Moïse et des Écritures de manière générale, puisque cela est dit au chapitre 7, verset 6, hein, que voilà, c'est un spécialiste de la loi. Ainsi, Esdras connaissait les prophéties concernant le retour d'exil, et il savait qu'il était en train d'accomplir l'une de ces prophéties. Il était conscient que faire appel à Dieu dans ce cas précis, dans ces circonstances bien précises, revenait à renoncer, à placer sa foi, sa confiance en Dieu. Alors, comment le savait-il? Notre texte nous dit, là, je l'ai souligné, de voyager en toute sécurité, qu'il avait proclamé un jeûne pour voyager en toute sécurité. Et en hébreu, littéralement, cela veut dire avoir un chemin droit. Et cette expression fait écho au langage qu'on retrouve aussi dans Ésaïe, chapitre 40, verset 3, où il est dit que c'est l'Éternel qui, on entend une voix qui crie dans le désert, dégager un chemin dans le désert pour l'Éternel, et dégager un chemin, mais c'est aussi cette expression qui renvoie aussi au chemin droit, qui parle du fait que l'Éternel lui-même interviendra pour les Israélites afin de les faire revenir chez eux dans leur pays. Et cette prophétie est complétée aussi par le chapitre 52, là on est au chapitre 40 d'Ésaïe, chapitre 52, on retrouve aussi le même terme. « Vous ne sortirez pas en courant à la hâte, vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Et qui dit encore une fois clairement que c'est l'Éternel qui protège son peuple lors de ce voyage. « Vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne courrez pas, c'est l'Éternel qui va vous protéger lors de ce voyage de retour. » Et Esdras était conscient que son voyage de retour s'inscrivait dans cette prophétie de Yahvé. Et de ce fait, il a refusé la protection de l'empereur, car Dieu avait promis justement que c'est lui-même qui allait protéger son peuple. Et cette conscience que cette prophétie s'appliquait à sa situation a été renforcée aussi parce qu'on retrouve un peu précédemment. Donc là, j'ai mis le verset 12, mais le verset 11 nous dit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. » Sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Esdras portait ses ustensiles de l'Éternel. Il savait qu'il allait ramener ses ustensiles, il allait ramener les prêtres aussi pour remettre en place le culte rendu à Yahvé à Jérusalem. Et grâce à sa connaissance de la parole de Dieu, il a su discerner que ce jeûne n'était pas un excès de zèle, mais était nécessaire en accord avec la volonté de Dieu. Effectivement, Dieu l'a protégé justement durant ce voyage, parce qu'il savait que ce fait de s'être exposé comme ça dans le danger, dans la difficulté, n'allait pas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais il savait qu'il était en train d'accomplir cette prophétie qui rappelait que c'est Dieu lui-même qui allait protéger son peuple lors du retour. Alors je crois que l'exemple d'Esdras nous apporte un éclairage concernant notre façon de jeûner pour demander à Dieu son secours. Et c'est vrai que ça peut nous inviter à nous poser certaines questions. Est-ce que lorsque je jeûne, je cherche encore une fois à forcer la main de Dieu ou alors je cherche à entrer dans son plan qu'il a pour moi? Esdras cherchait à rentrer dans le plan de Dieu et c'est pour cela qu'il a décidé de jeûner. Et je crois que c'est seulement une lecture approfondie de la parole de Dieu nous aidera justement à avoir un esprit assez, un discernement assez aiguisé justement pour savoir quand jeûner, quand se mettre volontairement dans une situation difficile. Et à ne pas nous perdre finalement dans des combats où Dieu n'y est pas, ou plutôt à rechercher à combattre là où Dieu nous invite à combattre. En fait, soit notre jeûne exprime notre désir de voir s'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, soit notre jeûne exprime notre désir de voir Dieu se soumettre à nos désirs quelque part, voir notre propre volonté s'accomplir. Lorsque par excès de zèle, nous exposons au danger, au refus de traitement ou d'aide de toute autre personne, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais cela cache plutôt un orgueil qui impose à Dieu notre solution, notre façon de voir. Je ne veux pas les médicaments que tu me mets à ma disposition, mais je veux que ce soit toi qui intervienne directement, quelque part. Donc voilà, on impose quelque chose à Dieu. C'est aussi un déni de la réalité matérielle au profit d'une réalité spirituelle. Et tout cela au détriment d'une bonne vision des choses. Vous savez, des fois, ça peut être aussi le danger du chrétien, c'est de tout chercher à spiritualiser et à ne pas réaliser qu'il y a aussi cette réalité matérielle et qui nous invite à avoir une bonne sagesse, une bonne réflexion. Et finalement, un bon équilibre, c'est de tenir compte de cette réalité matérielle tout autant de la réalité spirituelle. Alors l'extrême opposé, c'est de tenir compte uniquement de la réalité matérielle. Et si on fait ça, à ce moment-là, on ne prie plus, on ne jeûne plus parce qu'il n'y a pas de Dieu qui existe si on est totalement matérialiste. Mais si on met l'accent sur la dimension uniquement spirituelle, disons qu'on manque à nos responsabilités, en tout cas dans ce monde, parce que justement, on va négliger les choses réelles qui sont devant nous. Donc, c'est une invitation à avoir un bon équilibre entre les deux. Alors, je crois qu'il y a certes des situations où le jeûne peut nous exposer au danger, car nous voulons faire confiance à Dieu, à l'exemple d'Esdras, qui remet sa protection entre les mains de l'Éternel. Mais il y a aussi des situations où Dieu ne nous demande pas de faire cela, à l'exemple de Néhémie, qui n'a vu aucun problème à se faire escorter par les officiers de l'empereur. Alors de nouveau, prenons garde à ne pas forcer la main de Dieu lorsque nous jeûnons et ne pas se retrouver dans une situation d'excès de zèle. Pour ne pas tomber dans ce piège, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin justement d'une bonne connaissance de la parole de Dieu pour savoir à quel moment Dieu me demande de faire cela ou ne pas faire cela, par exemple. Alors, quoi qu'il en soit, Esdras et les siens ont démontré par leur jeûne et la prière, leur désir d'être en communion avec Dieu, c'est ce que je disais précédemment, leur désir de retourner dans la ville où Dieu avait promis de manifester sa présence. C'est ainsi que Dieu a répondu à leur prière et leur accorde justement de voyager en toute sécurité. C'est ce qu'on voit au verset 31. Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Tout au long de la route, notre Dieu nous a pris soin de nous en nous protégeant des attaques d'ennemis et des embuscades des pillards. Alors, ils ont fait bon voyage, seulement ce retour au pays du peuple de Dieu n'était qu'une première étape du plan de rétablissement que Dieu avait pour son peuple Israël. Il fallait encore attendre la venue du Messie. Ce Messie qui, alors il y avait cette première étape, c'était de retourner à Jérusalem, c'était de reconstruire le temple, ensuite attendre la venue du Messie qui avait pour objectif de sauver son peuple, sauver le peuple de ses péchés, de rassembler un peuple encore plus grand autour de sa seigneurie et lui ouvrir finalement le chemin vers la destination finale, les nouveaux cieux et cette nouvelle terre, et ce dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors c'est vrai que compte tenu de la situation délicate des Juifs à l'époque d'Esdras, qui était sous domination perse, on ne voit pas forcément l'espérance messianique dans ces livres, c'est plutôt absent, mais c'était certainement pour pouvoir craindre de ne pas paraître séditieux vis-à-vis aux yeux de l'empereur. Mais cela n'empêche que ce retour au pays était la première étape du plan de Dieu de restauration, et les Juifs attendaient la prochaine étape, à savoir le Christ, le Messie qui devait venir. Et puis on le voit aussi dans les évangiles, quand Jésus arrive, le peuple a soif de ce retour, le peuple attend ardemment l'intervention du Messie de Dieu. Et donc le peuple était dans cette attente, dans cette phase, dans cette seconde phase. Mais là, on est dans cette première phase qui est plutôt ce retour et la restauration du culte. Alors vous le savez, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Jésus nous accorde justement le pardon de nos péchés par sa mort et nous intègre aussi au peuple de Dieu par sa résurrection. Et nous attendons maintenant d'arriver à notre destination finale, dans notre patrie céleste, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Donc nous sommes toujours dans ce processus de restauration et on attend justement cette nouvelle création. Et dans un sens, nous sommes comme dans la situation d'Esdras au bord du fleuve Ahava, où nous avons commencé notre voyage vers la nouvelle Jérusalem. Et dans ce voyage, nous sommes confrontés à toutes sortes d'ennemis, toutes sortes de difficultés qui pourraient nous faire dévier de notre route. Nous sommes dans cette situation d'Ahava. Esdras savait que ce n'était pas sa destination finale. Il devait se rendre à Jérusalem et il compte sur le secours de Dieu pour l'aider à atteindre son objectif. De la même manière aussi, nous sommes dans ce monde. La Bible nous rappelle que nous sommes des résidents étrangers, que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous sommes des citoyens de ce monde céleste à venir. Et c'est vrai qu'en attendant, nous sommes amenés à faire face à certains dangers, comme Esdras devait faire face aussi à ces pillards, à ces dangers, et pas seulement les pillards, on peut penser à la nature aussi, le soleil, intempéries, les animaux sauvages, il y avait plein de dangers qui pouvaient survenir durant ce voyage. Et c'est vrai qu'à travers la parabole du semeur, Jésus nous donne un aperçu de ce à quoi ressemblent les dangers auxquels nous pouvons faire face. Je ne vais pas lire la parabole, mais je cite simplement, j'essaie de résumer en quelques mots. Il nous parle quand la parabole du semeur, donc les graines qui sont semées sur les différentes terres, il y a une des terres qui empêche la croissance de la plante, ce sont les difficultés, les persécutions à cause de Christ. La difficulté, les épreuves, la persécution, ce sont des choses qui peuvent nous décourager. Les épreuves, la difficulté, ça peut être par exemple la maladie, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être toutes sortes de difficultés et qui nous poussent des fois à nous décourager et puis à nous détourner quelque part de Dieu. Et Jésus parle de cela comme un véritable danger pour le croyant. Et puis un autre danger, ce sont les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et de ce monde qui nous attire, et les passions de ce monde. Donc ce monde semble pouvoir répondre à nos besoins les plus profonds. Donc de ce fait, on peut avoir tendance à se tourner vers ce monde pour répondre à nos aspirations, plutôt que de se tourner vers celui qui a l'autorité et le pouvoir de répondre pleinement à nos besoins. Et toutes ces choses peuvent être un obstacle qui nous font perdre de vue notre véritable patrie, justement. On va courir après les richesses de ce monde plutôt que de rechercher les richesses célestes. Et ça nous fait rester quelque part au fleuve Ahava, plutôt que de faire le voyage pour se rendre à Jérusalem, pour aller vers cette nouvelle création. Et la jeûne chrétienne, certes, n'est pas une obligation, mais il est un excellent moyen pour nous rappeler que notre véritable nourriture n'est pas les aliments terrestres, ce ne sont pas les choses de ce monde, ce ne sont pas les richesses ou les passions de ce monde qui nous détournent de Dieu, mais notre véritable nourriture, ce qui peut vraiment nous combler, ce qui peut vraiment nous apporter une plénitude, c'est la présence toute satisfaisante de Dieu dans nos vies. Être dans cette communion avec Dieu, être avec lui, connaître la joie d'être dans la présence de Dieu. Je crois que c'est dans le psaume 16 où David dit que c'est plénitude de joie dans ta présence, délice éternelle auprès de toi. C'est comme ça qu'il termine, me semble-t-il, le psaume 16. Donc ça nous rappelle la joie qu'il y a être dans la présence de Dieu. À travers le jeûne, nous manifestons notre faim de Dieu plus qu'autre chose, toute autre chose. Notre désir de faire bon voyage et de nous régaler non pas de la nourriture terrestre, mais du buffet céleste du royaume de Dieu. Esdras avait faim de Dieu. Son jeûne voulait dire « Je préfère mourir ici présent que de vivre loin de ta présence. » Et Dieu a répondu à sa prière, à sa faim, et lui a permis de faire bon voyage pour expérimenter la première étape de son plan de rétablissement. Encore aujourd'hui, nous avons besoin de nous rappeler que notre véritable résidence n'est pas au bord du fleuve Ahava, mais la nouvelle Jérusalem. À travers le jeûne, nous exprimons que nous ne voulons pas nous satisfaire des eaux du fleuve Ahava, et ni de ses fruits qui sont aux alentours, les fruits, à savoir les bonnes choses de notre monde actuel, mais que nous voulons bien plus, nous voulons rentrer chez nous dans la création restaurée, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le jeûne doit exprimer notre attente ardente du retour du Christ, où nous pourrons enfin nous délecter de sa présence. Nous pourrons expérimenter la joie éternelle qu'il y a à être dans sa présence, la présence du Dieu trinitaire. Et je terminerai en citant une prière, la prière de Jésus dans Jean 17, verset 3, où il parle justement de la vie éternelle. Le verset 3 nous dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas d'être dans le lieu parfait, mais c'est d'être avant tout avec la personne parfaite. C'est de connaître le Dieu véritable. Le jeûne doit exprimer cette réalité. Esdras avait soif de cela. Et je vous invite aussi à être dans la même disposition qu'Esdras aussi, à avoir soif du retour de Dieu, à avoir soif de le connaître davantage, à avoir soif d'être satisfait pleinement de lui. Et de nouveau, encore une fois, le jeûne peut être un excellent moyen de manifester ce désir, un excellent moyen d'attendre justement l'intervention de Dieu dans nos vies afin de détruire tout obstacle qui nous empêche d'expérimenter cela. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous remercie pour votre attention et je prie qu'à travers ces quelques mots, que le Seigneur puisse vous bénir, vous interpeller, vous faire réfléchir et puis vous encourager à continuer et à aller plus loin dans votre marche avec lui.